Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi pile, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. La France est sur le bon chemin d'un retour à la vie normale. Jean Castex s'est montré plutôt optimiste ce matin, vous entendrez le Premier ministre dans un instant. Pourquoi Jean Castex fait-il cette déclaration ? Aujourd'hui, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire, je poserai la question à Louis Dragnel qui est avec nous. Les prix augmentent, plus 1,9%. L'inflation est en hausse sur un an, plus 1,9%. Et si c'était une bonne nouvelle pour certains, on verra ça avec Emmanuel Dutheil. Et puis on verra les problèmes que ça pose aux professionnels du bâtiment. Et puis la présidentielle approche. Le gouvernement dit vouloir restreindre le droit du sol à Mayotte. Clin d'œil à l'électorat de droite, mais on sait déjà que la loi ne sera pas votée. J'appellerai le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine. Le Premier ministre a pris beaucoup de pincettes, mais il l'a dit, on est sur la bonne voie et la quatrième vague de l'épidémie est maîtrisée à ce stade. Le retour à la vie normale, c'est pour bientôt, on l'écoute.
On veut retrouver une vie normale, d'accord ? Quand on n'est pas loin, j'espère. Voilà. Moi, je considère que...
Il y a encore du travail.
Bon, on voit que cette quatrième vague, on va parler avec prudence, est maîtrisée, on va dire, à ce stade, contrôlée. Nous préparons les rentrées, je dis les, scolaires, universitaires, les vaccinations, etc. Donc, nous devons rester mobilisés.
Voilà, le Premier ministre qui était dans le Bas-Rhin, nous devons rester mobilisés, mais il l'a dit. Hein, on commence à voir le bout du tunnel, on est sur la bonne voie. Louis Dragnel, bonjour.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Chef du service politique d'Europe 1. Alors, pourquoi faire cette déclaration à quelques jours seulement de la rentrée ?
Eh bien parce que le gouvernement, tout simplement, veut y croire. Se dire que ça y est, l'épidémie est derrière nous. Mais on vient de l'entendre à l'instant, Jean Castex fait aussi très attention à ne pas reproduire les erreurs du passé, être trop optimiste ou trop négatif, car il le sait, le virus peut muter et résister. L'exécutif est donc sur une ligne de crête, mais il essaye de donner des signes d'espoir pour montrer que les efforts ont payé. Un conseiller du Premier ministre met en avant les indicateurs épidémiologiques et les admissions en réanimation qui baissent. En clair, même si le gouvernement semble avoir enterré l'idée d'atteindre l'immunité collective, il continue quand même de pousser à se faire vacciner. D'ailleurs, on approche de l'objectif des 50 millions de premières doses. C'est un objectif qui avait été fixé par Emmanuel Macron pour la fin de l'été. Et donc, l'idée du gouvernement, c'est de dire qu'on a passé les pics, on va donc vers de meilleures perspectives. De manière très concrète, un premier marqueur d'optimisme a été posé après l'annonce par Bruno Le Maire de la fin prochaine du « quoi qu'il en coûte ». Et puis, cette prévision de croissance, plus 6% en 2021, après moins 8% en 2020, qui donne envie au gouvernement d'y croire.
Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On a beaucoup entendu la parole des anti-vaccins et des anti-pass sanitaires ces dernières semaines. Hier soir à Lyon, ce sont les pro-vaccins et pass sanitaires qui ont donné de la voix, qui se sont réunis pour mettre en avant les arguments de la majorité des Français. Jean-Luc Bougeon est allé à leur rencontre pour Europe 1.
Ta liberté commence là où s'arrête la mienne, sur leur banderole. Les manifestants provax s'adressent à leurs adversaires, les antivax, qui selon Alan, 24 ans, ont un peu trop confisqué la parole ces dernières semaines.
Il ne faut pas laisser les antivax seuls prendre la parole tous les week-ends. Leurs arguments, c'est souvent des mensonges qui se basent sur aucun fait scientifique.
Rétablir des vérités scientifiques, c'est aussi l'objectif de Gérard, 65 ans, peu habitué des manifs, mais qui cette fois a tenu à s'exprimer.
C'était quand même très utile de montrer que la majorité silencieuse dont je fais partie, pouvait exprimer le bon sens face à ce monde de fantasmes qu'on nous met en avant. 47 000 décès évités grâce au vaccin, ça c'est du bon sens que de l'accepter, quoi. Alors oui, c'est la science. Pourquoi cette suspicion ? En fait, cette suspicion, c'est un vrai poison. La seule façon de se libérer, c'est de passer par le pass sanitaire et les vaccins. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour le dire plus haut, plus fort.
Pour Sophie, 26 ans, les antivax n'ont rien compris à la notion de liberté.
Ils confondent clairement avec égoïsme, et même égoïsme, c'est pas le bon mot, parce que c'est même pas la bonne décision à prendre pour eux-mêmes. Non, pour moi, c'est vraiment de la bêtise.
Un premier rassemblement en semaine, qui en appelle d'autres le week-end, promettent les organisateurs, histoire de mobiliser encore davantage. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Voilà, je sais que ça vous a fait beaucoup réagir, parce que dès qu'on parle de passe sanitaire et de vaccin, ça fait forcément réagir. Allez, on change de sujet. On en parlait déjà la semaine dernière. Les prix augmentent. On parlait des prix des fruits et légumes. Ce matin, c'est le chiffre global de l'INSEE qui est tombé et ça confirme le sentiment qu'on a en faisant nos courses. L'inflation est bel et bien de retour, plus 1,9% sur un an. Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle?
Bon, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que l'économie repart. Il y a en ce moment des hausses de prix parce que tout simplement, tout le monde a commandé en même temps le même produit. Du coup, on manque de matières premières pour produire ces produits. Et puis, les coûts du transport pour acheminer ces produits explosent. On ne s'en rend pas compte, mais je vais vous donner un exemple. Le transport maritime n'a jamais connu une telle frénésie. Les bateaux en ce moment attendent 8 jours au large du port de Los Angeles aux États-Unis avant de pouvoir débarquer la marchandise, vous imaginez. Alors là, vous pouvez me dire, c'est bien gentil, mais au final, c'est quand même nous qui payons. Vous avez raison, surtout que les prix augmentent aussi parce que les prix des fruits et légumes, par exemple, s'envolent après une très mauvaise récolte. Là, on est donc sur une mauvaise nouvelle. Mais ce qui est rassurant, c'est que si tout va bien, on est sur des éléments qui devraient se régler. Par exemple, si la récolte est bonne dans les mois à venir, les prix vont rebaisser. Idem, d'ici un an environ, les tensions sur les matières premières devraient considérablement diminuer. Enfin, un élément important pour se rassurer un tout petit peu à avoir en tête. Certes, les tickets de caisse augmentent, mais ces hausses arrivent après des années d'inflation quasi nulles. Donc si ça reste à peu près comme ça, on est encore sur des hausses limitées selon les économistes.
Voilà, et l'augmentation des prix a donc des conséquences sur tous les secteurs. Si vous faites des travaux, tiens par exemple, la facture pourrait grimper. Écoutez ce que nous disait ce matin Olivier Saleron de la Fédération française du bâtiment.
Ça serait quand même suicidaire si nos artisans et entrepreneurs ne répercutaient pas ces prix. Donc oui, certaines fois c'est 10 à 15%, donc une augmentation des prix sur les devis à venir, en tout cas les devis actuels. On espère que cette tendance sur beaucoup de produits, sur le bois, ça va être difficile, mais sur les autres, que ça puisse s'atténuer avant la fin de l'année. Donc les prix vont recommencer à baisser, nous l'espérons fortement, évidemment. Donc non, surtout ne pas baisser l'investissement au niveau de l'habitat, et je crois que nos concitoyens veulent aussi améliorer leur habitat et avoir des logements dignes.
On part à présent à Marseille. Emmanuel Macron va y passer 3 jours à partir de demain. Les chantiers sont nombreux pour redresser la ville, pour recoudre la ville, disait ce matin le maire de Marseille. Merci Kauter Ben Mohamed d'être avec nous en direct. Vous êtes fondatrice.
Merci à vous de me donner la parole.
Mais je vous en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Fondatrice de Marseille en colère, qu'est-ce que vous attendez tout simplement de la visite du président de la République? Déjà demain, à partir de demain.
Ben écoutez, à vrai dire, nous n'attendons absolument rien, puisque je viens d'avoir tous mes collègues, là, un peu militants, un peu chefs de réseau, habitants engagés. Et donc, nous sommes engagés sur la rue d'Aubagne depuis bientôt 3 ans, très activement, sur les écoles, encore plus activement depuis des années. Nous avons monté un collectif de parents, nous sommes même partis en justice avec l'ancienne majorité. Et quand on voit qu'ils descendent en grande pompe pour faire de la sensation, on est quand même en période préélectorale pour faire on ne sait quoi, avec qui, avec quels moyens, sans connaissance des doléances des habitants, de ceux qui connaissent la ville, qui font la ville et qui font que Marseille n'explose pas, alors que c'est une véritable cocotte minute qui est à la limite de l'implosion depuis des décennies. Nous sommes assez sceptiques. Nous sommes assez impatients, entre guillemets, de savoir ce qu'il va dire, mais nous n'attendons réellement rien parce que des plans Marshall, des plans banlieue, on en a eu depuis des années. Sauf qu'il y a rien qui se passe réellement et concrètement pour les habitants, parce que ce sont, excusez-moi, des oligarques en col blanc qui font des programmes à Paris et dans des bureaux, mais qui ne connaissent ni la ville, ni les territoires, ni réellement les problématiques. Et c'est pour ça que c'est toujours un échec royal, en fait.
Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de Marseille, notamment à cause des règlements de compte. Il y a eu 15 morts depuis le début de l'année. La lutte contre les trafiquants de drogue, c'est capital, selon vous ?
C'est capital, mais ça passera non pas uniquement par la répression, mais par de la prévention. Et je me réjouis de la venue de plusieurs ministères, parce qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur et de la Justice sont concernés, mais pas que. Le ministère de l'Enseignement est concerné,
C'est-à-dire de la prévention, pour dire aux clients de ne pas se droguer, c'est ça ?
Absolument pas, pour offrir d'autres perspectives d'avenir à cette jeunesse qui n'a rien d'autre à faire que de souffler toute la journée, puisque les cités où elles habitent, qui sont des territoires abandonnés depuis des décennies, sont des territoires dans le territoire marseillais, qu'elles sont totalement géographiquement enclavées, mais pas que, culturellement, socialement. Il y a des territoires, il y a des cités où il n'y a même plus l'école de la République dans la cité. Il n'y a absolument rien. Ce sont des gens qu'on concentre là-bas, qui n'ont plus accès à l'emploi, qui sont dans la misère, dans les misères qui se cumulent, sociales, économiques, souvent en vulnérabilité de santé, qui sont enclavés du reste de la ville. Et donc, quand vous vivez dans un endroit qui est complètement pourri, où l'école est complètement pourrie, où les logements ne sont pas dignes, l'école n'est pas digne, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de centre aéré, il n'y a pas de centre social, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Alors, les parents y luttent, et, parce que tout le monde croit que les parents sont abandonnent leurs enfants.
C'est ce que j'allais vous dire.
On n'a pas de moyens de lutter.
Quel peut être le rôle des parents?
Le rôle des parents, vous croyez que les parents ne font pas leur rôle éducatif, leur rôle, les parents jouent leur rôle. Sauf que les parents, encore une fois, ils sont enclavés et abandonnés dans des territoires où ils n'ont accès à rien. Qu'est-ce que va faire une maman qui a des enfants ou même un papa, mais souvent des familles monoparentales qui sont enclavées dans une cité, qui ne peuvent pas amener leurs enfants à la plage parce qu'elles n'ont pas les moyens de prendre les transports en commun ou parce que c'est trop éloigné, parce qu'il y a 2h30 de transport à l'aller et au retour. 2h30, c'est le temps de trajet pour aller à Paris, monsieur. Et aujourd'hui, on a des cités marseillaises qui, pour aller à la plage, faute de piscine, parce qu'il n'y a pas de piscine à Marseille, comme le disait monsieur Gaudin, nous n'avons pas besoin de piscine, nous avons la mer. Sauf que la mer, c'est pas toute l'année et que malheureusement, nous enregistrons à Marseille des plus forts taux d'enfants qui ne savent pas nager. Et parce que ces mamans s'en vivraient elles-mêmes sans piscine, sans centre aéré, sans parc pour amener leurs enfants, sans aire de jeu, sans rien, quoi. Alors quand vous n'avez que des tours avec du béton et que vous n'avez pas de quoi nourrir vos enfants et que vos enfants n'ont rien d'autre à faire, c'est difficile de lutter seul en tant que maman ou en tant que parent tout court contre des narcotrafiquants organisés.
Merci Kaouter Ben Mohamed d'avoir témoigné à midi dans Europe Midi sur Europe 1. Merci à vous, bon après-midi à vous. Restez bien sur Europe 1. Dans un instant, on ira à Kaboul. Les talibans contrôlent désormais la ville. Les soldats américains sont partis cette nuit. Restez bien sur Europe 1. A tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h44. Écoutez, c'était cette nuit à Kaboul. Des tirs à l'arme automatique, tirs de joie des talibans qui ont repris possession de l'aéroport de Kaboul et de toute la capitale afghane. Ils ont paradé dans les rues immédiatement après le départ des derniers soldats américains. Margot Ben est à Kaboul pour Europe 1. Les derniers avions militaires ont décollé en plein milieu de la nuit, hein.
Oui, en effet, aux alentours d'une heure du matin, ici à Kaboul, on entendait encore le bourdonnement des derniers avions américains quittant l'Afghanistan. Et puis soudain, on a entendu des rafales de tirs d'armes automatiques. C'était des talibans dans la rue qui célébraient leur victoire, qui célébraient le départ de leur ennemi et leur prise effective de toute la capitale, puisque l'aéroport était le seul endroit qu'ils ne contrôlaient pas encore à Kaboul. Les rues étaient assez désertes, puisque c'était le milieu de la nuit, et que les talibans qui tiraient étaient postés dans des endroits spécifiques de la ville. En revanche, au checkpoint auquel j'ai pu me rendre, les talibans se félicitaient de leur victoire et disaient « les étrangers sont partis ».
L'une des questions qui se pose maintenant, c'est que vont faire tous les Afghans qui veulent fuir les talibans? À Bruxelles, une réunion des ministres de l'Intérieur se tient aujourd'hui. Isabelle Horry est sur place pour Europe 1. Les gouvernements font tout pour éviter de braquer les opinions publiques sensibles sur les questions d'immigration et pour éviter, Isabelle, le fiasco de 2015, hein.
Oui, c'est clair que la grande crise migratoire de 2015 est dans toutes les têtes, notamment parce que les divisions des Européens l'avaient aggravée. Donc là, l'idée, c'est justement d'anticiper le plus possible. Cette réunion extraordinaire, elle a été convoquée pour se préparer à un afflux migratoire qui n'est pas encore là, mais qui pourrait arriver. Nous avons quelques mois devant nous, estime quand même un connaisseur du terrain. Clairement, la priorité pour les Européens, c'est de tout faire pour inciter les Afghans à rester dans la région, dans les pays voisins comme le Pakistan ou l'Iran. Les ministres devraient adopter une déclaration cet après-midi pour promettre de soutenir financièrement ces pays afin que les réfugiés puissent s'installer durablement dans des conditions dignes. Ils connaissent ce modèle, hein, ils l'ont mis en place avec la Turquie depuis 2016. Certains pays, dont la France, sont aussi volontaires pour accueillir des personnes vulnérables, comme des femmes ou des enfants, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On verra s'il y a déjà des annonces de chiffres cet après-midi. Enfin, il y a aussi l'objectif de muscler les contrôles de sécurité. Personne n'oublie le risque terroriste. Il suffit d'une seule personne qui passe, résume un diplomate.
Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Question, faut-il revoir le droit du sol qui permet à toute personne née en France d'obtenir la nationalité française? Je vous pose la question parce que le gouvernement dit vouloir restreindre un peu plus le droit du sol à Mayotte en accordant la nationalité française qu'aux enfants nés d'un parent en situation irrégulière depuis au moins un an et non plus trois mois comme aujourd'hui. Au moins un parent en situation irrégulière depuis un an. Si l'un des parents est en situation régulière depuis un an, ça veut dire que l'enfant a été conçu à Mayotte. On est en direct avec le député Les Républicains de Mayotte, Mansour Kamardine. Bonjour monsieur le député, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Une question toute simple, est-ce que vous soutenez cette initiative?
Oui, bien sûr, je soutiens cette initiative parce que peut-être une déformation professionnelle. Je ne supporte pas les mesures ou les comportements qui sont de nature à détourner notre législation. Et donc, l'arrivée des clandestins, l'arrivée massive des clandestins à Mayotte se justifie dans une très large mesure par le souhait de vouloir contourner notre législation et de venir faire des enfants conçus ailleurs à Mayotte dans le seul dessein d'accéder à la nationalité française. Vous savez, nous sommes des Français à Mayotte et très fiers de l'être, mais nous ne pouvons pas imaginer que Mayotte accepte d'être envahie au point qu'aujourd'hui, il y a plus d'étrangers à Mayotte, dont une grosse partie en situation irrégulière, pour des gens qui viennent pour accoucher, alors qu'il y a des hôpitaux, des maternités qui fonctionnent dans les pays limitrophes, dans le seul dessein de voir leurs enfants accéder à la nationalité française. C'est ce détournement-là qu'il faut absolument empêcher.
Oui, je le répète, le projet du gouvernement, c'est n'accorder la nationalité française qu'aux enfants nés d'un parent, au moins en situation régulière, depuis au moins un an et non plus trois mois, comme aujourd'hui. Il y a des problèmes d'insécurité, monsieur le député. Comment vivent les Mahorais? Racontez-nous le quotidien des Mahorais.
Le quotidien des Mahorais, pour faire simple, je dirais, c'est comme si on était... Mayotte est une prison à ciel ouvert. Les gens habitent dans des maisons en se calfeutrant, avec la peur de sortir la nuit, il n'y a plus de vie nocturne, avec la peur de dormir dans des locaux, j'allais dire barricadés, puisqu'on met des barrières à travers les fenêtres, et malgré cela, on dort avec la peur au ventre. C'est ça qui pose vraiment problème. Vous savez, nous avons dénoncé cette situation pendant très longtemps. On nous a accusés de tous les noms. Je crois que le quotidien Le Monde a publié il y a quelques jours un dossier faisant la relation entre l'insécurité et l'immigration incontrôlée. Et donc aujourd'hui, il est clair que cette insécurité prégnante sur le territoire trouve en très large partie sa source dans l'immigration clandestine, parce que vous avez des gens, et c'est humain, qui cherchent à trouver l'Eldorado à Mayotte, sauf que quand ils arrivent, ils croisent la misère, et pour survivre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour survivre, ils sont obligés de commettre des larcins par ici, des crimes par là, bref, des violences qui rendent la situation à Mayotte intenable.
Merci beaucoup, monsieur le député. Merci d'avoir témoigné dans Europe Midi. Député Mansour Kamardine, il est 12h50. Restez bien dans Europe Midi. On va parler dans un instant des arnaques aux assurances de téléphone portable. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
12h53. Attention aux arnaques aux assurances de téléphone portable. Bonjour Arnaud Schneeweis d'être direct avec nous. Vous êtes médiateur de l'assurance. Je voulais vous avoir avec nous dans Europe Midi pour que vous nous expliquiez juste à quoi doit-on faire attention quand on achète un portable ou qu'on s'abonne.
Par rapport à ma mission qui est d'être médiateur de l'assurance, donc d'apaiser les litiges entre assurés et assureurs, nous on a vu une explosion des saisines au cours des derniers mois relatifs à ces assurances liées au téléphone portable, avec en fait des consommateurs, des assurés qui nous disent « je n'ai jamais souhaité souscrire une assurance » et donc ils se rendent compte en regardant leur relevé bancaire quelques semaines plus tard, qu'il y a un débit de 15 euros par mois. Ils se demandent de quoi il s'agit, ils contactent l'assureur et là on leur dit « bah oui, je, considère que vous avez consenti le délai de rétractation n'était que de 14 jours, c'est ce que prévoit le code de la consommation, par conséquent il est trop tard et nous sommes partis pour un an. Donc on a deux types de comportements choquants. L'un, c'est le cas où l'assuré nous dit « je n'ai jamais souhaité souscrire une assurance de téléphone portable, je n'ai pas fait attention à ce que je signais effectivement sur la tablette, j'ai signé des choses, je ne me suis pas rendu compte ». Voilà. Donc là, il n'a pas consenti à souscrire une assurance. L'autre cas, c'est un cas où une technique de vente, manifestement dans des boutiques de téléphonie mobile, où le vendeur fait un peu du chantage au bon sentiment, il dit « écoutez, j'ai compris que vous ne vouliez pas d'assurance, mais pour préserver mon emploi, s'il vous plaît, prenez une assurance, le premier mois sera gratuit, puis après, au bout d'un mois, vous allez pouvoir résilier ». Et quand la personne, quand le consommateur téléphone pour résilier, on lui dit « bah non, vous aviez 14 jours, on a bien votre signature, nous sommes partis pour un an ». Donc voilà, il faut faire très attention. Et vraiment, il faut que la souscription à une assurance, liée au téléphone portable en l'occurrence, soit pleinement consentie par le consommateur.
Voilà, on le dit, on le répète, il faut faire attention quand on signe un contrat, toutes sortes de contrats, et encore plus un contrat pour un téléphone portable ou un abonnement. Merci beaucoup Arnaud Schneweis. 12h55, la météo, le temps, avec Anissa Haddadi. Anissa, vous prévoyez du mieux sur le nord, hein ?
Oui, ça y est, enfin, Romain, le ciel va s'éclaircir cet après-midi sur la moitié nord du pays. C'était triste, hein, ce matin, c'était automnal. Eh bien, cet après-midi, sur la Normandie, sur les Hauts-de-France, sur la région parisienne et le Grand Est, on aura quand même un peu plus d'éclaircies que de nuages, avec encore un risque d'averse sur l'Alsace et les Alpes du Nord. Toujours ce vent de nord-est, cette bise qui souffle sur les côtes de la Manche jusqu'à 50 km/h cet après-midi. Dans le sud, rien à signaler. Hein, au sud de la Loire, nous avons encore une journée très ensoleillée avec un ciel complètement dégagé. Peut-être des averses qui menacent sur les Alpes, sur les reliefs corses et les Pyrénées. Et puis le Mistral qui souffle. Il est moins fort que la semaine dernière, jusqu'à 50 km/h dans la vallée du Rhône. Côté température, elles sont de saison, plus fraîches au nord qu'au sud, avec 19 degrés à Boulogne-sur-Mer, 22 degrés à Belfort, 21 degrés à Brest et Strasbourg, 22 pour Biarritz et Lille, 23 à Paris, 24 à Rennes. Sur la moitié sud, il fait bon, c'est l'été, 26 à Bordeaux, 27 pour Ajaccio et Montpellier, 28 à Marseille et 29 la maximale pour Nîmes.
Merci beaucoup Anissa, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. À demain, dans un instant, c'est La France Bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Très bel après-midi sur Europe 1.